bulletin que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage est aujourd'hui consacré aux viols et agressions sexuelles commis au sein du clergé. Aux États-Unis, le scandale a particulièrement touché la Pennsylvanie. Selon le rapport d'un grand jury rendu public l'été dernier, 301 prêtres se sont rendus coupables d'agressions sexuelles au cours des 70 dernières années. Au moins 1000 victimes ont été recensées, mais beaucoup se tairent encore dans le silence. Pendant des décennies, les diocèses de l'État ont dissimulé les preuves de ces crimes dans des archives secrètes, organiser le transfert des prêtres accusés d'agression de paroisse en paroisse afin d'éviter les poursuites. Aujourd'hui, les victimes réclament justice. Agression sexuelle, le terrible péché de l'Église catholique. C'est un grand reportage en Pennsylvanie signé Anne Corpé et réalisé par Pierre Chaffanjon.
Je suis Jim Van Sickle. En 1979, ma grand-mère est décédée et mon père est tombé très malade. On ne savait pas ce qu'il avait. J'étais perdu et probablement en colère. Mais j'ai rencontré David Poulson cette année-là. Il sortait tout juste du séminaire et nous sommes devenus amis immédiatement.
Je m'appelle Mary McHale. Quand j'avais 17 ans, tous les messages que je recevais à propos de l'homosexualité étaient que j'irais en enfer et que j'étais une mauvaise personne. Et je pensais que je l'étais. J'ai décidé de me tourner vers mon prêtre catholique. Je suis allée confesser ce péché auprès de lui et c'est comme ça que l'agression s'est produite.
Je suis Diana Votasek. Je suis victime du même prêtre que Marie, James Gaffney. J'avais 16 ans, j'étais nouvelle dans cette école. Mes parents traversaient un divorce terriblement difficile. J'étais dans un état dépressif et je sentais constamment son regard sur moi. Il voulait que je sache qu'il était là pour moi.
Comme l'immense majorité des victimes, Jim, Mary et Diana traversaient une période difficile quand un prêtre prédateur a croisé leur chemin. Leur agresseur a commencé par gagner leur confiance et puis tout a basculé.
On est finalement parti en Ohio. Il voulait me montrer le sanctuaire de Marie. On devait dormir sur place. Donc après la visite du sanctuaire, on a été dîner et on a été à l'hôtel. Cette chambre d'hôtel était miteuse. Dans le lit, on pouvait mettre des pièces de monnaie pour faire vibrer le matelas. Il a quitté la chambre, il est revenu en pyjama, il a voulu qu'on fasse de la lutte. J'ai vu qu'il était en érection. Et la lutte est devenue plus sérieuse. J'avais vraiment l'impression qu'il avait plus de deux bras.
Il m'a emmené dans sa chambre. Je me souviens qu'il a fermé à clé. Il a sorti une grande enveloppe et a dit « C'est le programme qu'un psychologue professionnel m'a envoyé. » Et la seule instruction, c'est que nous devons appliquer l'ensemble des consignes ce soir. Et ensuite, il a sorti trois petites enveloppes. La première enveloppe disait « Parlez de vos expériences sexuelles ». Donc il a commencé, il m'a raconté qu'il se masturbait et ce genre de choses. Moi, je n'avais pas beaucoup d'expérience sexuelle à cet âge. La deuxième enveloppe disait « Désignez les parties de votre corps et nommez-les ». Donc on a fait ça, et il y a eu des attouchements. J'ai réalisé que ça progressait, donc je lui ai dit que je devais vraiment partir, mais il m'a dit « Non, tu m'as promis ». La troisième enveloppe disait de se déshabiller et de commenter le corps de l'autre. Donc il a commencé. Ensuite, ça a été mon tour, je me suis mise en sous-vêtements et il a commencé à me toucher, à me dire que j'étais bien musclée et il voulait qu'on aille plus loin. Mais je ne voulais pas et ça n'est pas allé plus loin ce soir-là.
La première fois qu'il m'a agressée sexuellement, il m'a emmenée à l'école au milieu de la nuit. Il m'a fait entrer par le sous-sol à l'arrière du bâtiment. Il n'a pas allumé la lumière pour qu'on ne puisse pas être vu de l'extérieur. Il m'a emmenée dans son petit bureau et m'a dit qu'il voulait me montrer une drôle de marque de naissance qu'il avait. J'étais très effrayée. Bien sûr, c'était son pénis en érection qu'il voulait me montrer.
erect penis that he wanted to show me.
Pendant plus de deux ans, Diana a vécu l'horreur. Il y a eu des viols, des poursuites incessantes. Elle a refoulé de nombreux souvenirs traumatisants.
I don't remember all the details.
Je ne me souviens pas de tous les détails de ce qui s'est passé dans ce bureau. Mais je me souviens que j'ai arrêté d'y descendre. J'ai commencé à me cacher dans l'école pour ne pas répondre à ses convocations dans son bureau, mais il me retrouvait quand même sur le chemin du retour. Je rentrais à pied à la maison. Donc j'avais vraiment l'impression que je ne pouvais rien faire pour lui échapper. J'étais catholique, nous placions les prêtres sur un piédestal. On ne dit jamais rien de mal sur un prêtre. Cela m'a pris si longtemps avant de parler et c'était très douloureux parce que je savais que je faisais du mal à ma famille, qui est toujours catholique aujourd'hui.
Le poids de ces agressions, Jim, Marie, Diana, l'ont porté pendant des années.
Juste après, j'ai perdu ma petite amie, tous mes amis au lycée. Je n'en avais plus rien à faire. Je suis allé à l'université, je me suis isolé, j'avais cette colère. Je n'avais plus confiance en personne, j'étais brisé. Mon estime de moi a été détruite. La colère, la peur, et en même temps au fond de moi, il y avait la honte.
Les années suivantes, je suis allée à l'université et ma vie a commencé à partir en vrille. J'ai commencé à boire parce que l'alcool me faisait oublier. Mais à l'intérieur de moi, j'avais l'impression de mourir. J'étais si seule, j'étais dans un sale état. J'étais complètement dévastée. Je buvais toute la journée. J'avais tellement honte, je me sentais tellement coupable, ce fardeau était si lourd.
A little bit of background from you guys would be good. You know, we'll kind of share a little bit about ourselves.
Les violences décrites dans le rapport publié par le grand jury de Pennsylvanie en août 2018 sont parfois insoutenables. Un millier de victimes sont citées, mais toutes n'ont pas été recensées car beaucoup restent terrées dans le silence. À Pittsburgh, Jim Van Sickle tente de les retrouver. Il organise des groupes de parole. Ryan O'Connor est un habitué.
À un très jeune âge, on nous a conditionnés, nous étions sous contrôle. On nous a dit que l'on ne devait pas parler de cela. Tu es laid, tu mérites ce qui t'est arrivé, tu t'es mis dans cette situation, etc., etc. Donc on a vécu en silence. On a eu des vies de torture en silence parce que nous ne pouvions pas parler. Nous avions peur de parler. Même la première fois quand j'ai rencontré Jim et que j'ai commencé à m'impliquer dans ce groupe, j'étais très inquiet de la manière dont je serais perçu par mes amis, par ma famille, parce qu'il y a un tabou sur ce sujet. C'est ce que nous devons vraiment surmonter. Nous devons abattre ce tabou. Je pense que plus les gens nous verront, plus ils nous entendront, moins nos agresseurs auront le contrôle sur nos vies. Nous le reprenons. Et quand tu reprends le contrôle, tu survives.
Lorsque les victimes finissent par parler, il est très souvent trop tard pour porter plainte devant la justice. Diana Voschek.
I did file a lawsuit in 2004.
En 2004, j'ai finalement porté plainte, mais je venais de dépasser le délai de prescription.
It's unfortunate.
C'est malheureux que nous ayons cette barrière dans le temps. Je crois que les victimes méritent de pouvoir attendre le moment qui leur convient pour dire leur vérité. Après que j'ai porté plainte, le bureau de mon avocat m'a dit que plusieurs autres femmes avaient fait de même contre ce prêtre. Et cela continue. Mais il circule librement dans ma ville. Il vit à quelques kilomètres de chez moi. Honnêtement, c'est quelque chose du quotidien pour moi. J'ai toujours peur de tomber sur lui quand je vais avec mes enfants au supermarché. Et c'est le cas pour tant d'autres victimes. C'est si injuste que des décennies après ces agressions, je doive toujours faire face aux conséquences. La loi doit changer.
Jim Van Sickle.
Il y a un problème. Il y a des gens en colère, frustrés. et ils aimeraient une forme de justice. Je pense que la prescription devrait être totalement abolie pour les abus sexuels sur enfants. Et je crois que le Parlement de l'État de Pennsylvanie est d'accord pour voter cette mesure. Mais le problème, c'est la rétroactivité. Nous voulons une fenêtre de 2 ans pour les gens qui sont actuellement sous le coup de prescription, pour qu'ils puissent au moins porter plainte au civil. On ne pourra jamais obtenir la rétroactivité au pénal. Mais c'est très important pour moi d'avoir une journée devant la justice. Je sais que beaucoup de gens veulent simplement être entendus. Nous voulons cette fenêtre de rétroactivité pour continuer d'exposer au grand jour les personnes qui nous ont fait cela, afin que les enfants qui ont aujourd'hui 8, 10 ou 15 ans et qui sont agressés dans les églises ou les presbytères réalisent qu'ils peuvent s'exprimer, que d'autres personnes l'ont fait avant eux, qu'il ne faut pas avoir peur de parler.
David Poulson, le prêtre qui a agressé Jim Van Sickle, a été condamné en octobre dernier à 14 ans de prison suite à la plainte de 2 de ses plus récentes victimes. Jim a assisté au procès en simple spectateur. David Poulson avait reconnu être un pédophile devant son évêque dès 2010, mais le diocèse a gardé cette archive secrète pendant plus de 6 ans. Il n'a été défroqué qu'en 2018 avant son procès.
C'est sur fond de radio chrétienne que nous prenons la route ce mardi matin pour nous rendre à l'évêché du diocèse d'Erier. 41 prêtres de ce diocèse figurent dans le rapport du grand jury publié en août dernier. Tous ont été répertoriés comme auteurs d'agressions sexuelles. Et nous allons rencontrer l'évêque Persico, qui est à la tête de ce diocèse depuis 2012. There shall be no more death, neither sorrow nor crying.
Hi, good morning.
Je suis l'évêque Lawrence Persico, évêque du diocèse d'Erie, Pennsylvanie, depuis octobre 2012.
À cette époque, vous aviez réalisé la gravité de la situation?
Non, j'avais l'impression que tout cela avait été réglé avant. Donc je ne voyais pas cela comme un sujet sur lequel je devais me pencher immédiatement. Je ne me suis pas particulièrement préoccupé des abus sexuels. C'est quand j'ai entendu parler des victimes, c'est seulement là que j'ai demandé au procureur du comté s'il pourrait revoir nos dossiers, juste pour vérifier que tout était en bon ordre. Donc ils ont commencé à étudier les cas. Je leur apportais les dossiers, un par un, et ils les étudiaient dans la pièce à côté. Mais au cours de cette évaluation, l'État a assigné en justice notre diocèse et 5 autres, et a confisqué nos dossiers.
Ça, c'était en 2016.
Right? Correct. C'est vrai.
Pendant ces 4 ans, vous avez regardé ces dossiers?
J'en ai regardé certains en particulier, mais je ne les ai pas tous regardés.
Pourquoi a-t-il fallu vous assigner? Pourquoi ces documents n'ont pas été apportés plus tôt devant la justice?
Je pense que cela a beaucoup à voir avec les coutumes de l'époque. L'habitude de l'époque était de retirer ces gens de leur paroisse, et s'il y avait un cas passible de poursuite, de le remettre à la justice. Mais dans ce diocèse, beaucoup de cas étaient prescrits quand ils ont été connus. Nous n'avons eu qu'un seul cas qui a entraîné des poursuites.
Poulson.
Mais les documents sur Poulson n'ont pas été donnés à la justice avant que le grand jury ne vous envoie une assignation, n'est-ce pas?
Oui, je n'avais pas vu le mémo qui était dans le dossier, jusqu'à ce qu'on reçoive un coup de fil ici au sujet d'une victime du Texas. Alors j'ai lu le mémo de 2010. L'évêque de l'époque dit avoir fait au mieux. Il dit qu'il a tenté de joindre la victime, mais elle n'a pas répondu. Est-ce que j'aurais mené l'affaire de cette manière? Non.
Pour dédommager les victimes touchées par la prescription, certains diocèses ont ouvert des fonds de compensation. Mais les personnes qui accepteront ce recours ne pourront plus poursuivre l'Église en justice si la loi venait à changer.
Nous sommes dans un café, c'est là que nous a donné rendez-vous Matt Haverstick. So
vous êtes l'un des avocats de l'église de Pennsylvanie, c'est ça?
Of Pennsylvania, right?
Oui, pour quelques diocèses de Pennsylvanie.
Comment se fait-il que l'église a attendu de recevoir une assignation pour remettre des documents qui auraient dû déjà être entre les mains de la justice?
La plupart des diocèses de Pennsylvanie et du pays ont remis leurs dossiers à des procureurs locaux.
Ce n'était pas le cas pour Poulson, qui vient d'être condamné à une lourde peine.
Vous avez raison, ce n'est pas mon diocèse, je ne peux pas en parler, mais je peux vous dire que l'église d'aujourd'hui n'est pas la même que l'église dont on entend parler dans le rapport du grand jury, dans le scandale des abus sexuels. L'église a complètement changé, et elle veut être sûre que n'importe quel prêtre accusé soit sorti de ses rangs.
Mais vous ne pensez pas que les victimes devraient être autorisées à poursuivre l'Église pour la manière dont elle a dissimulé les faits?
Nous sommes contre l'idée de changer les délais de prescription, mais nous comprenons qu'on a mal agi pendant les décennies écoulées. Et c'est pour cela que les diocèses que je représente et d'autres en Pennsylvanie ont ouvert des fonds de compensation. Les victimes qui n'ont plus la possibilité d'aller en justice à cause du délai de prescription peuvent être dédommagées. La somme sera fixée par un médiateur ou un administrateur de ces fonds de compensation.
Mais certains perçoivent ces fonds comme un moyen d'échapper à la justice si les délais de prescription sont abolis.
Je pense que, d'une part, c'est un moyen pour l'Église d'essayer d'aider les survivants, et d'autre part, l'Église contribue à beaucoup d'autres œuvres de charité. Si le délai de prescription était aboli, l'Église catholique aux États-Unis ferait faillite. Et donc, toutes les autres choses formidables que fait l'Église pour aider les pauvres, les affamés, les sans-abri, les migrants, elle ne pourrait plus les faire.
L'Église ferait faillite?
Cela arrive fréquemment aux États-Unis quand les délais de prescription sont abolis. Il y aurait une armée d'avocats qui irait de diocèse en diocèse réclamer des centaines de millions de dollars pour les victimes, et cela mettrait l'Église en faillite.
Il n'y a pas grand monde à la messe de midi dans cette église catholique d'Arrier. Dans son sermon, le prêtre compare l'avortement à un génocide et il s'étonne que cela ne provoque pas un scandale de la même ampleur que celui qui touche l'église de l'État. À la sortie, quelques paroissiens acceptent d'évoquer les abus sexuels du clergé.
Les médias en veulent aux catholiques, montent en épingle et mettent en première page tout ce qui va mal dans l'Église. Les autres congrégations, les protestants, ils font la même chose, mais on n'en parle pas, on le cache. C'est très injuste la manière dont on nous traite. Je suis désolée pour les victimes, mais je pense que certains récits sont exagérés et je prie pour tout le monde.
Je pense, comme l'a dit le curé, que ce genre d'information est surmédiatisé, tandis qu'on mentionne à peine l'avortement.
Vous pensez qu'on parle trop de ces abus sexuels?
Oui, il y a beaucoup de publicité là-dessus.
On est désolé pour les enfants qui ont été agressés, mais les prêtres aussi ont besoin d'aide.
Oui, les prêtres ont besoin d'aide, on prie pour eux, ils doivent se repentir.
Samedi 16 février, le pape François a défroqué l'ex-cardinal de Washington, Theodore McCarry, 88 ans, accusé d'abus sexuels il y a près d'un demi-siècle. C'est la première fois qu'un évêque est réduit à l'état laïque pour ce motif. Un signal clair que les agressions sexuelles ne seront plus tolérées, estime la conférence des évêques américains. Mais pour les victimes, ce n'est qu'un premier pas. Il ne suffira pas à panser leur plaie. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Agression sexuelle, le terrible péché de l'église catholique en Pennsylvanie. Un grand reportage d'Anne Corpet, à la réalisation Pierre Chaffangeon. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.